On reviendra sûrement dans la discussion sur cette question qui a été très présente en fait dans le projet de recherche. Et maintenant, nous allons aborder une autre phase de ce projet qui vous a conduit, Valérie Niflon, à passer du témoignage oral à un documentaire sonore. Alors, pour vous présenter en deux mots, vous êtes journaliste, productrice de l'émission La Marche du Monde, que vous avez créée en 2000. Travaillez étroitement à la fois dans le cadre de RFI, mais aussi dans le cadre de votre émission, qui mobilise très souvent des archives, des témoignages, et dans le cadre de vos reportages. Donc vous avez travaillé étroitement avec l'équipe de ces 13 chercheurs européens. Et donc là, vous vouliez revenir un peu sur la manière dont vous avez procédé pour aboutir à ce document sonore, le CD que vous trouverez dans ce livre qu'on va vous présenter en début d'après-midi. Voilà. Alors, quel était l'enjeu de cette production, de cette édition ?
Donc la route a été longue. On a démarré en 2006 à essayer de tricoter quelque chose ensemble. Donc une journaliste de radio et puis une équipe qui a été montée avec talent par donc Alain Blum et Martha Cravery, qui très vite est devenue porteuse de ce projet. Donc ça a été pour moi une expérience tout à fait formatrice. La chance de ce métier de journaliste, c'est qu'on apprend tout le temps. Mais alors là, en plus, quand on a 13 professeurs, c'est assez formidable. En plus, on a travaillé sur toutes les langues, 9 langues. Vous allez les retrouver dans ce documentaire. C'est un travail qui s'est fait, qui s'est tricoté au fil du temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'enjeu, c'était bien sûr de mener à bien cette enquête. L'équipe scientifique apportait donc un cadre scientifique d'enquête avec un questionnaire qu'ils ont mis au point. Moi, je suis venue les écouter, essayer de comprendre leurs exigences. Et puis, j'ai essayé de faire entendre les miennes, puisqu'il s'agissait effectivement de créer ce corpus d'archives sonores. Donc, c'est là où on a essayé de se comprendre. Et en fait, on a réussi à se comprendre assez rapidement parce qu'au fond, chacun a sa compétence et chacun peut être peut-être complémentaire dans ce qu'il apporte à l'autre. Et mon apport dans cette affaire est très, très, très précis. Hein, c'est-à-dire que la connaissance scientifique, historienne, avec toutes les différentes compétences qu'il y avait dans cette équipe, on l'a dit, hein, ethnologique, des démographes, des géographes, etc. Bon, il y avait une approche quand même assez large et pas stricto sensu historique. Ce que moi et ce que mon institution, donc Radio de Service Public International, RFI, pouvait apporter, c'était une compétence déjà en termes d'enregistrement, donc de recueil audio de ce corpus. Donc Anne-Marie Lezoncy le précisait ce matin, c'est vrai que c'est une forme de contrainte, mais toute contrainte est bonne, vous le savez. Et donc ça a permis d'avoir un corpus de 160 témoignages avec une grande qualité sonore, avec aussi, dans la façon dont le chercheur a donc mené son enquête, effectivement peut-être une attention particulière dans l'écoute. C'est-à-dire que ce dispositif sonore peut être vécu comme une contrainte, mais cette contrainte aussi peut renforcer, il me semble, l'écoute. C'est-à-dire qu'on prend soin de ne pas parler en même temps que l'autre. L'autre sait qu'il est effectivement enregistré avec cette dimension internationale qui rejoint tout à fait cette dimension transversale du projet, puisqu'il s'agissait bien de dépasser les questions nationales. Et on a pu constater sur le terrain, moi, chaque fois que je les ai rejoints sur 3 campagnes, que ça pouvait poser aussi une question d'instrumentalisation politique très claire, hein, cette histoire de la répression soviétique. Voilà, donc l'apport de RFI, du journaliste de radio, c'était d'apporter justement, en termes de technique, cette capacité à réaliser ce corpus dans les meilleures qualités possibles. Mais c'était aussi, en tant que, avec mon expérience personnelle, journalistique, évidemment, du recueil des témoignages, pouvoir échanger, dialoguer avec les chercheurs sur leur façon de procéder, puisque très peu d'entre eux, au fond, étaient rompus à ces techniques de recueil des témoignages. Et moi, sans avoir d'approche scientifique du tout, j'ai une formation de terrain, au fond, et en tout cas, je fais ce métier depuis un peu plus de 20 ans, et en tout cas depuis 10 ans, je travaille le témoignage, donc avec mon approche journalistique. Et c'est donc en pratiquant que j'ai pu aussi, évidemment, comprendre et apprendre et pouvoir transmettre mes propres conclusions, mes propres approches, mes propres questions surtout. Et cet échange s'est fait de cette façon avec les chercheurs. Donc ça, c'était la première phase. Ensuite, donc, on a pu constituer en 3 ans environ ce corpus de 160 témoignages, entre 2 et 5 heures par témoignage. La question ensuite, c'était évidemment une mise à disposition du monde de la recherche. Et puisqu'on était en partenariat sur cette création d'archives sonores, il s'agissait bien sûr de partager avec le plus grand nombre ce corpus. Alors comment ? Comment ? Donc on a commencé justement à réfléchir à l'occasion notamment des premières productions de radio dans le cadre de la Marche du Monde, et en s'interrogeant sur, pour garder justement cette... ce que je vais appeler moi une ligne éditoriale, hein, ce qui n'est pas le vocabulaire d'un chercheur, mais ce qui est l'essence même de cette archive sonore, c'est-à-dire une archive européenne. Donc moi, pour attaquer bien en tête le sujet, j'ai commencé par réfléchir en fait à des thématiques, c'est-à-dire que pour ne pas s'enfermer dans des questions justement nationales ou sur un terrain particulier sur lequel l'un ou l'autre aurait travaillé, moi, ce que j'apportais peut-être, c'était d'emblée... à l'écoute, à la fois au vécu, puisque recueillir un témoignage, c'est d'abord nouer une relation intime au sein d'une rencontre. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincue, et je pense que la qualité d'écoute, la qualité du témoignage vient de la qualité de l'écoute. La qualité d'écoute vient de celui ou de celle qui écoute, qui a des outils scientifiques, mais qui a aussi une personnalité, une histoire, et je pense que ça peut... Ça peut bien sûr jouer. Et donc, on a commencé... moi, j'ai commencé à discuter avec les uns et les autres. On a tous discuté entre nous et on a commencé à s'interroger sur quels étaient finalement les thèmes qui pouvaient émerger. Donc, quand on commence à voir aujourd'hui le rendu scientifique de ce corpus, c'est très intéressant parce qu'on le voit notamment que le thème de l'enfance est un thème très fort qui a pu émerger. C'est aussi un thème qui a été abordé très rapidement dans le cadre de nos productions radiophoniques. C'est donc comme ça que nous avons commencé à explorer en quelque sorte ce corpus, d'abord en essayant à travers des thématiques de pouvoir produire donc un certain nombre d'émissions de radio sur des thèmes comme l'enfance, j'allais dire devenir soviétique, qui est le titre d'un des chapitres, mais qui en termes d'émissions est devenu ceux qui sont restés, je crois. Je crois que c'est le titre qu'on avait trouvé. Voilà, donc on a commencé à explorer certains thèmes qui nous paraissaient des thèmes forts de ce corpus pour monter ces émissions de radio et donc pour passer de ces grands entretiens à une dimension de documentaire sonore, puisque ce sont des magazines qui font une heure et qu'à l'intérieur de ces magazines, en fonction de la thématique abordée, on va justement travailler ces différents entretiens sur cette problématique que l'on aura choisie. Donc il s'agit donc ensuite, pour moi et toujours en compagnie d'un des chercheurs de l'équipe, d'aller chercher dans ce témoignage les extraits sonores qui sont particulièrement signifiants en ce qui concerne la thématique que l'on va aborder. C'est dans cette optique-là que nous avons mis en œuvre donc ce travail du passage, je dirais, du corpus au documentaire radio dans un premier temps. Et c'est un travail aussi qui a pu nourrir la façon dont les chercheurs eux-mêmes ensuite ont sorti des extraits pour les différentes thématiques abordées dans le musée virtuel qu'Alain Blum nous a présenté ce matin.
Et ce travail s'est prolongé aussi à travers l'ouvrage, puisque donc cette édition comprend un document sonore. Vous avez dû faire une sélection.
Voilà.
Et comment donc, ces voix ont-elles dialogué avec les chapitres de l'ouvrage ?
Voilà, c'était l'essence même du livre. Hein. Il s'agissait de partir de la voix des témoins. Donc, pour nous, il n'était pas imaginable de construire cette écriture d'analyse scientifique proposée à travers donc, ces 13 chapitres et donc sous la plume de 13 chercheurs de l'équipe, sans mettre au centre justement la voix des témoins. Donc il ne s'agissait pas d'illustrer, il s'agissait de se nourrir d'un ou deux témoignages particulièrement intéressants sur une problématique, à partir, témoignage à partir duquel ou desquels, justement, le chercheur va construire son analyse. Et donc, moi, en dialogue avec ce chapitre et cette proposition, donc nous avons fait nos choix tous ensemble, bien évidemment, et nous avons essayé, donc essentiellement les trois directeurs d'ouvrage, d'insister hein, justement sur cette ligne directrice, sur cette voie des témoins. Et donc à partir de là, j'ai moi-même repris l'intégralité d'un témoignage. J'ai préféré rester moi sur une seule voix, bien que certains chapitres nous en fassent entendre plusieurs. Mais moi, je me suis plutôt focalisée à chaque fois sur une voix, une histoire de vie. Hein, vous l'avez compris, on a vraiment travaillé sur des récits de vie. Et donc, j'ai essayé de construire une narration qui vient dialoguer justement avec ce chapitre sur ce thème que nous avons choisi. Donc, je crois que le plus intéressant, c'est de vous faire entendre tout de suite un exemple, un extrait. Donc, à partir du récit de Stella Kovac. Donc, c'est un chapitre qui a été écrit par Catherine Gousseff. Stella, elle est née en Galicie orientale, à Lvov. Aujourd'hui, c'est Lviv, donc en Ukraine. C'est une ville qui a changé souvent de nom au gré de ses différentes tutelles étatiques. Stella, c'est une fille unique. Elle garde d'ailleurs un souvenir très, très joli, très plutôt heureux de son enfance. Elle a une dizaine d'années lorsqu'elle est arrêtée, déportée avec sa mère. Son père, à ce moment-là, lui, est dans l'armée polonaise. Donc ça se passe en avril 40, hein, à l'occasion d'une des grandes vagues de déportation, vague sur lesquelles d'ailleurs est revenue ce matin Emilia, puisqu'on les désigne comme éléments indésirables que l'on doit purger de ces nouveaux territoires soviétiques. Donc je disais, le père est parti dans l'armée polonaise, donc la mère et la fille avaient entendu quelques rumeurs, mais enfin n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe, de ce qui peut leur arriver. Elles sont arrêtées, donc raflées. Elles pensent qu'elles vont être d'ailleurs incarcérées. Elles partent sans rien, sans aucune affaire. Et j'ai construit cette narration que j'ai intitulée donc les chiffons de Stella Kovac. Donc on va assombrir la salle parce que pour la radio, pour le son, c'est mieux. Et on va entendre tout d'abord la version française, pour que tous ceux qui ensuite ne comprennent pas la langue dans laquelle s'exprime Stella puissent aussi comprendre. Et ensuite, on entendra l'original.
Le 13 avril 1940, à 5 heures du matin, ils ont frappé, ils ont cogné à la porte. Ils sont rentrés à quelques-uns, ils nous ont braqués avec leurs fusils et ils nous ont donné l'ordre d'empaqueter nos affaires, de les prendre et de sortir. Parce que maman ne pensait pas que nous irions directement en prison à cause de la position de mon père, qui était officier, on n'a même rien pris. Donc elle s'est habillée et m'a habillée avec ce qu'on portait la veille. Maman était en chaussures à talons, parce qu'à cette époque-là, on portait des talons. Et elle a pris son sac, et moi concrètement, rien. Et on est parti. Et c'est comme ça qu'on a traversé les steppes, et après 17 jours de voyage, nous sommes enfin arrivés au Kazakhstan. Ils nous ont dit que chacun devait se débrouiller pour se trouver un appartement, enfin, à se loger. On s'est dispersés dans le village, et il y avait là une petite rivière qui coulait. Et ma mère, arrivée au bord de la rivière avec ses talons, a dit « Moi, je ne suis plus en état d'aller plus loin. » Et face à ça, à partir de ce moment-là, je suis devenue une personne adulte. À cette époque, on nous a permis de reprendre contact avec la maison. Et ils ont autorisé l'envoi des colis. S'il n'y avait pas eu ces colis, on n'aurait jamais survécu. Maman avait laissé à la maison toute sa famille, c'est-à-dire ses parents, ses beaux-parents, une grand-mère avec le grand-père, et une autre grand-mère, et le frère et la sœur et leurs enfants. Un paquet en amenait un autre. Un paquet pouvait peser jusqu'à 8 kilos. Mais ils ont aussi autorisé l'envoi de gros bagages. Et c'est comme ça qu'on a pu recevoir, par exemple, un lit en fer forgé. Et donc, nous avons fini par être correctement habillés. Des petits manteaux, des petits pulls, des petits riens. Et je me trouvais très élégante. Et après l'amnistie, on est allé en ville. Maman, à ce moment-là, a vendu... Enfin, elle avait un manteau, un très beau manteau plissé avec un col de renard argenté. Et grâce à ce manteau, on a pu partir en ville. Il fallait bien pouvoir payer. Et donc, on a vendu beaucoup de ce qu'on avait reçu. Ma mère est tombée malade du typhus. Ils ont emmené maman à l'hôpital. L'hôpital était très loin, 5 ou 7 kilomètres pour y aller. et il fallait apporter quelque chose à manger. Je n'avais pas de nourriture, donc j'ai commencé à vendre tout ce qui restait, les chemises de nuit de maman que je vendais comme robe. Il y avait donc un marché libre, et à ce marché, j'achetais ces différents... Je ne sais pas cuisiner, donc je vendais ces chemises, j'achetais quelque chose, je le préparais, je l'emportais. 7 kilomètres pour aller, 7 kilomètres pour revenir. Et je retrouvais ma mère. On l'avait tondue. Oh mon Dieu, quelle histoire! Et entre-temps, j'ai commencé, comment dire, à devenir célèbre. Enfin, célèbre. On m'appelait la fille au ruban.
Oficerstwa naszego ojca, nawet nie braliśmy niczego, więc ubrała siebie mnie w to, co nosiłyśmy poprzedniego dnia. Mama była w szpilkach, bo już wtedy nosili szpilki i wzięła torbeczkę, ja to właściwie nic i wyszłyśmy. I w ten sposób później jechałyśmy przez te stepy i tak nas przez tych 17 dni dowieźli do Kazachstanu. Powiedzieli, żebyśmy każdy na własną rękę szukał sobie kwartirę, czyli jakiegoś schronienia. Rozleźliśmy się po tej wsi i taka mała rzeczka jakaś tam przepływała i doszła moja mama na tych swoich szpilkach do tej rzeczki i powiedziała, ja dalej nie jestem w stanie iść. Wobec tego ja od tego momentu stałam się osobą dorosłą. A tymczasem pozwolili nam nawiązać kontakt z domem i pozwolili przysyłać paczki. Gdyby nie te paczki, to byśmy w ogóle nie wyżyli. Mama zostawiła w domu całą rodzinę, to znaczy rodziców i teściów, jedną babcię z dziadkiem, drugą i brata, i siostry, i dzieci tego. I także ta paczka goniła paczkę. Paczka mogła ważyć 8 kilo, albo jakiś nawet pozwolili na duże bagaże. I takie do nas przesłali, jak nam przesłali łóżko żelazne na przykład. I myśmy się już były ubrane w miarę, jakiś płaszcz, jakieś swetry, jakieś coś. I uważałam się za bardzo elegancką. No i po tej amnestii pojechaliśmy do tego, do miasta. Mama sprzedała wtedy, miała płaszcz taki bardzo ładny, plisowany, z takim srebrnym lisem, tego. To za ten płaszcz dowieźli nas do tego miasta, i trzeba było płacić. Posprzedawaliśmy już tak wiele z tego, co nam nasłali. Moja mama zachorowała na tyfus. No to zabrali mi mamy do szpitala. Szpital był bardzo daleko, 5 kilometrów czy 7 w jedną stronę. I tam trzeba było nosić jakieś jedzenie. Więc nie miałam tego jedzenia i zaczęłam sprzedawać wszystko to, co zostało już. Te koszule mamy jako suknie i na takim wolnym, tam był wolny rynek. I tam kupowałam te różne jakieś tam, nie umiałam gotować, nie wiem jak ja to gotowałam. Sprzedałam tam z 2 koszule, coś kupiłam, przylatywałam, gotowałam. Później szłam 7 kilometrów w jedną stronę, później z powrotem w drugą stronę. I znalazłam tą mamę, którą ugolili, Boże, co się działo. I stałam się w międzyczasie taka dosyć sławna, to znaczy sławna powiedzmy. Nazywali mi dziewczynka z kokardami.
Dans ce récit de Stella, je vais vous lire les derniers mots de Catherine Gousseff, qui, elle, a évoqué le trajet de Stella et aussi d'un autre témoin. Mais en tout cas, en ce qui concerne Stella, voici comment elle termine son chapitre. Dans le récit de Stella, le souvenir se concentre à la façon d'un refrain sur l'habit, qu'il soit pull, robe ou manteau. L'objet vestimentaire surgit à l'improviste, dans la narration, dans les contextes les plus divers. Il s'agit tantôt de manifester le lien à la famille restée à Lvov, mais qui s'avère présente par l'envoi des colis, tantôt signifier à quel point la parure avait cette capacité de recréer une fiction de normalité dans cet univers lointain et étranger. Le vêtement est également sollicité dans l'accompagnement d'une féminité qui se découvre avec la sortie de l'enfance, ou encore comme ressource dans le troc, et plus simplement pour sa capacité à faire rêver. Évasion, lien maintenu avec une idée de la civilisation, c'est avec ce fil du vêtement que Stella retrace l'histoire de sa déportation, de la découverte à la fin de la guerre des siens disparus, et les manteaux rencontrent alors en mémoire, pour atténuer, comme des ailes d'ange, les souffrances qui ont été tues. Voilà, pour vous dire comment on a essayé de dialoguer entre la construction de ce documentaire, de ces narrations, autour de problématiques, bien sûr, au fil des analyses proposées par les chercheurs, plusieurs problématiques en général sont abordées. Et moi, je me suis vraiment focalisée sur une dimension particulière. Là, c'est cette stratégie de survie que Stella a développée à travers le vêtement. Ça peut être la torture en ce qui concerne Clara Hartmann, que vous allez retrouver également dans le livre. Ça peut être les partis pris, la façon dont, par exemple, un ultranationaliste ukrainien, qui d'ailleurs, lui, est notre... Il incarne la figure du dernier sorti du goulag en ce qui concerne les 160 témoins, puisqu'il n'est sorti qu'en 1991, vous avez bien entendu. Il y a comme ça tout un tas de problématiques qui sont donc abordées de la façon la plus singulière et la plus incarnée, justement, dans ce documentaire qui dialogue donc avec les différents chapitres de ce livre. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous avons tenté d'écrire tous ensemble.
Alors, on n'aura malheureusement pas le temps d'entendre un deuxième extrait. C'est ce qu'on avait prévu au départ. Mais juste pour conclure sur ta intervention, donc comment se sont articulées à la fois les versions originales et les versions françaises dans le CD ?
Donc là, une fois encore, dans cette démarche de ce documentaire donc, que nous avons intitulé « Les voix du goulag », il s'agissait de faire entendre les voix des témoins, et en l'occurrence, la voix singulière, particulière de 13 donc, personnes. D'ailleurs, quand on les rencontrait, la première chose qu'on leur demandait aussi, c'est si elles étaient d'accord, donc évidemment pour témoigner, et pour aussi, puisque d'emblée le projet était radiophonique, si elles étaient d'accord d'emblée pour que leur témoignage soit diffusé à la radio et sur tout support multimédia, et pas seulement donc à usage d'une recherche. Donc ça a été énoncé de façon extrêmement claire, évidemment, dès qu'on a rencontré chacun des témoins. Donc là, il s'agissait, à la différence des différentes émissions de radio que nous continuons à réaliser ensemble, il s'agissait de faire entendre la voix en soi et d'être dans une écriture narrative strictement documentaire, c'est-à-dire qu'une narration devait pouvoir s'entendre sans autre commentaire. Hein. Le travail donc sur la version française, il nous est apparu assez rapidement que ce travail-là devait être distinct, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire, comme on dit dans notre jargon radiophonique, des voice-overs, de faire un doublage, mais de bien proposer une version donc originale dans la langue dans laquelle le témoin a choisi de s'exprimer, et puis une version française, puisque là, dans cette édition, on s'adresse à un public français, mais qui permet aussi, dans le cas d'éditions dans d'autres pays, notamment les pays où les enquêtes ont été menées, de pouvoir naturellement donc proposer une autre version dans la langue de celui qui sera amené à découvrir l'ouvrage. Alors comment, et j'en terminerai par là, comment ensuite faire ce travail de traduction, ça n'a pas été simple non plus, puisque de la même façon que les chercheurs ont tenu à maintenir cette qualité orale du corpus en procédant à des traductions simultanées pour pouvoir arriver vraiment à traiter cette enquête et en croisant de façon transversale, hein, tous les travaux sur tous les témoignages, il fallait aussi que dans les voies du goulag, on puisse retrouver justement cette oralité. Donc, il ne s'agissait pas de faire un travail de comédien. Moi, on a essayé de faire ce que j'appellerais une lecture sentie, c'est-à-dire que le travail de traduction a été au plus près de la spontanéité orale du témoin, avec parfois des rires, des silences, des répétitions. Et si on compare avec une traduction littéraire, c'est vrai que dans une traduction littéraire, on va éliminer un certain nombre de choses qui ne passent que par la voix, les silences, les rires, ou peut-être on va les noter ou les annoter. Donc là, il s'agissait de les faire entendre. Donc encore une fois, ce n'est pas le même travail. Donc on a essayé vraiment d'être au plus près de la façon dont le témoin s'exprime, même quand on sait parfois qu'il utilise un mot, mais que nous, on va l'entendre autrement parce qu'il veut signifier autre chose, mais on a gardé cette, entre guillemets, parfois maladresse inhérente à la spontanéité de la parole. Et après, on a tout ce décryptage, évidemment, dans le chapitre. Donc c'est comme ça que nous avons choisi donc de travailler version française d'abord, pour permettre au plus grand nombre ensuite d'entendre la version originale. Et même quand on ne connaît pas la langue dans laquelle s'exprime le témoin, il me semble que le fait d'avoir accès d'abord à une version française permet quand même de recevoir quelque chose de ce témoignage en version originale, parce que une voix, d'abord, elle s'adresse à notre sens le plus ancien, qui est l'ouïe, et elle est porteuse de sens, elle est porteuse aussi d'émotions. Et je pense que ça, cette musicalité de la voix, il n'y a qu'en l'écoutant, évidemment, cette voix qu'on peut l'atteindre. Voilà, je vous remercie.
Merci, Valérie Nivelon.